Radio Primitive et Galaxy Pop présentent Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Made in USA.
I wanted to know how old were you when you wrote your first song and what was it?
Okay, well, I wrote a song called The Jackass and the Toad Song, but it's really, really stupid and goofy, and I think I was 8.
Can we hear it?
Oh, are you serious?
Oh, come on.
Cause I'm walking down the road with a jackass and a toad, and I thought that I was fine till I lost my own little mind, but I'm walking down the road. Oh my God, I can't remember.
That was great.
But that was one of the, early masterpieces. And another one was called More Than Just a Friend that I wrote for this boy that totally dissed me.
Mon premier contact avec Tori Amos se fit sur un malentendu avec le titre Professional Widow sorti en 1996. Ce morceau, extrait de l'album Boys for Peel, adoubé par la presse rock de l'époque, était censé me servir de prétexte afin de mener mon plan machiavélique à terme, pousser mon père à écouter de la musique électronique. Mais je n'avais absolument pas prévu la grosse méprise. Voilà pourquoi je finis par me procurer le deuxième album de Tori Amos, Little Earthquakes, oui, le deuxième, dans un bac solde à Carrefour, convaincu d'y trouver une sorte de house ou de jungle assez esthétique pour séduire les mirettes sensibles de papa. Après un déballage précipité et une insertion dans le lecteur CD familial, mon sourire d'autosatisfaction a rapidement fondu. Je venais d'investir mes précieux deniers gagnés en repassant le linge de la maisonnée dans un genre de Kate Bush passé au laminoir, ce que ponctua mon père d'un rire machiavélique. Ce n'est qu'un caprice plus loin, quand je fis acheter le dit album Boys for Peel à mon grand-père, que je compris d'où venait mon erreur. J'avais été victime du remix des années 90. C'était monnaie courante à l'époque et ça l'est toujours de nos jours, d'induire l'auditoire en erreur avec un remix ou un edit, pas du tout représentatif de l'œuvre originale et ou loin du climax musical de l'artiste. Mais loin de me décourager, et pour rentabiliser ma mise, à l'époque on n'avait pas accès à un catalogue musical pour 10 balles par mois qui nous permettait de switcher
vers l'infini et au-delà,
j'ai poncé ces deux disques afin de les comprendre et de les apprécier à leur juste valeur. Grand bien m'a pris, j'avais mis un pied dans le Toriverse, et pas dans l'Autoriverse. Ça n'était que le début d'une longue histoire d'amour. Et si vous pensez que notre artiste du jour n'est qu'un ersatz de... Laissez-moi vous spoiler avec cet amuse-bouche, le premier 45 tours de Tori est sorti en 1978, soit la même année que The Kick Inside, premier album de... Mais là, j'ai déjà grillé quelques étapes. Retour donc sur les débuts d'une des musiciennes les plus marquantes de sa génération. Pour comprendre Myra Helen Amos, née le 22 août 1963 à Newton, en Caroline du Nord, et l'envergure de son œuvre subtilement provocatrice, il faut aller faire un tour dans sa généalogie et dans son enfance. Sa mère, Marie Helen, est en partie Cherokee. Tori expliquera à plusieurs reprises qu'avoir passé du temps dans la famille de sa mère, en particulier avec son grand-père, doté de l'oreille absolue, a été une véritable inspiration. Le père de Tori, Edison McKinley, est quant à lui pasteur méthodiste et descend d'une longue lignée de gens très croyants, très pratiquants, voire carrément coincés du yonf. Tori ne s'entend pas avec sa grand-mère paternelle, une femme forte et très intelligente, mais possédant néanmoins des principes très rétrogrades, en particulier concernant la place de la femme et les plaisirs charnels. Bref, deux salles, deux ambiances. Après deux années passées à Washington, la famille quitte la capitale et déménage à Baltimore au Canada. Myra Helen a 2 ans et commence alors à jouer du piano avant même de savoir parler. Elle reproduit à l'oreille des airs de classique et des airs populaires. À l'âge de 4 ans, elle joue la bande originale du film Oklahoma dans son intégralité, et à l'âge de 5 ans, elle commence à composer. L'enfant prodige passe dans la foulée sa première audition pour obtenir une bourse qu'elle obtient afin d'entrer à la fameuse Peabody University. C'est genre la crème de la crème des conservatoires. À l'âge de 6 ans, elle est la plus jeune élève à fréquenter ses cours de musique, les autres ayant tous facilement 10 ans de plus qu'elle, ce qu'elle décrira comme rafraîchissant et inspirant. Elle fréquente une école publique, mais sa scolarité n'est pas au diapason comparé à l'élève qu'elle incarne au Peabody Institute. Elle est une élève médiocre, car déçue par un système dont l'indépendance d'esprit n'était pas la priorité, pour reprendre ses propres termes. Et ça n'a pas beaucoup changé. Pour couronner le tout, dans l'ordre des priorités, ce qui passe juste après le piano, c'est la provoque.
She liked a shark.
She enjoyed shocking her parents.
C'est d'abord son grand frère qui va lui offrir un chemin de traverse en l'initiant à la musique rock contemporaine. La fillette éprouve alors ses premiers émois à l'écoute de Jim Morrison, qu'elle imagine comme un Jésus des temps modernes, de Sgt. Pepper's des Beatles, qu'elle considère comme un disque fondateur, mais elle trouvera un mentorat en la personne de Jimmy Page, qui devient son messie des temps modernes en quelque sorte. Mais vous vous doutez bien, tout ça ne va pas vraiment l'aider dans son parcours au conservatoire. L'école est soit prestigieuse, mais son répertoire est pour le moins classique. Et cette double culture musicale sera le premier grain de sable dans l'engrenage. Le second, c'est la méthode. La virtuose joue à l'oreille et interprète à sa sauce des airs de classique, ce qui ne séduit guère ses professeurs qui s'acharnent tant bien que mal à lui apprendre à lire une partition et à s'y tenir. Ce qu'elle ne fera jamais, la jeune fille têtue et rebelle ne l'entendant pas de cette oreille. J'ai su que tout était fini au Peabody dès qu'ils m'ont donné à jouer une pièce intitulée Hot Cross Buns. Je voulais jouer Roggy Carmichael. On n'enlève pas l'oreille d'un enfant avec des ordures comme les Hot Cross Buns. Ils ont perdu tout respect à mes yeux quand ils m'ont fait jouer ça. Elle rempile malgré tout pour une troisième année, puis une quatrième, puis une cinquième, en composant et en écrivant de son côté ses propres chansons et en expérimentant différents types de structures afin de développer son style. Elle se produit également lors de mariages quand elle ne joue pas des pièces classiques pour son conservatoire, ce qu'elle déteste plus que tout, ayant l'impression une fois de plus qu'on cherche à la faire entrer dans un putain de moule.
Préparez le moule à cake. Détachez le papier cuisson, posez dessus le moule à cake. Laissez dépasser suffisamment de papier cuisson sur les petits côtés. Entaillez des deux côtés le papier cuisson de la largeur du fond du moule et coupez la bande. Dressez les longs côtés et déposez la bande de papier cuisson. Après la cuisson, décollez le cake des longs côtés du moule à l'aide d'une spatule et le soulevez légèrement en tirant sur les extrémités du papier.
Elle se sabote donc volontairement à l'âge de 11 ans en saccageant du Beethoven. Son passage à la Peabody s'arrête ici, malgré une dernière tentative l'année suivante, mais sa prestation de I've Been Cheated de Linda Ronstadt ne les convainc guère plus, et ça m'étonne pas. L'adolescente de 13 ans vit son premier creux de la vague, et c'est son père, le pasteur McKinley, qui va la sortir de l'ornière.
And he said, get dressed, put on your sister's clothes and let's go, and we went to the bar room, as he calls it. And he got me a job that night.
La jeune adolescente se produit sous le simple pseudo Helen Amos et qualifie l'expérience de fantastique. Elle interprète jusqu'à 6 soirs par semaine des standards allant de Gershwin à Cole Porter, en passant par des choses plus contemporaines. Led Zepp, Carole King, Elton John, Gloria Gaynor, les Beatles ou encore les Stones. Elle atteint à l'âge de 17 ans un répertoire d'environ 1500 titres auxquels elle intègre également ses propres compos. Elle envoie en parallèle ses premières démos qui finiront toutes au fond d'un tiroir où elles sont probablement encore. Elle parvient malgré tout à se faire un nom sur la scène locale et gagne en 1977 un concours de jeunes talents avec un titre intitulé More Than Just a Friend, mais c'est l'année suivante, soit en 78, qu'Hélène va graver sa première empreinte dans du PVC. Une femme du nom de Camilla Wharton, dite Millie Wharton, a un plan. Elle a le texte d'une chanson et souhaite trouver des musiciens locaux pour faire enregistrer une démo avec laquelle elle pourrait atteindre les radios, trouver des musiciens célèbres pour la réinterpréter, faire un hit, etc, etc. Elle entre en contact avec le feu Hallmark Studio Recording de Baltimore, qui la rencarde avec une talentueuse musicienne et compositrice du nom d'Hélène Amos et un groupe de musiciens locaux, Contraband. Wharton arrive avec son texte et une bafouille de mélodie empruntée à un titre de Paul Simon qui n'y voit aucun inconvénient. Chic type Paul Simon. L'affaire est réglée en un après-midi, durant lequel Hélène compose et dirige l'enregistrement de It's a Happy Day, titre donc de son premier 45 tours. Elle n'apparaît que sur la face A, sous le pseudo Helen Amos. Contraband s'occupe de combler la B-side. Le single pressé à 500 exemplaires ne dépassera pas le stade du cercle restreint de l'entourage proche. Pour Madame Wharton, le rêve s'arrête ici.
Next.
Hélène retourne jouer dans les barguets de Georgetown et s'essaye à la comédie dans quelques productions locales. L'année suivante, la ville de Baltimore organise un concours pour soutenir son équipe de baseball, les Orioles.
Orioles. Orioles. Enfin, Orioles quoi.
Hélène, alors âgée de 16 ans, et son frère Mike écrivent et proposent la chanson Baltimore. La jeune artiste remporte le concours et les éloges du maire. Le titre est enregistré au Track Studio dans le Maryland et un 45 tours avec une face B, cette fois-ci signée et interprétée par Hélène Amos, est tiré à 500 exemplaires courant 1980 sur le label MIA, littéralement les initiales de Myra Hélène Amos. L'autoproduction reste une fois de plus confidentielle, même si celle-ci bénéficie d'un passage télé et d'un article élogieux dans le Maryland Weekly. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui avec la démo de Baltimore enregistrée en 1978. Attends, le concours des Orioles était en 1979, comment c'est possible que la démo date de 1978 ? Vous vous souvenez quand j'ai dit « L'affaire est réglée en un après-midi », durant lequel Hélène compose et dirige l'enregistrement de « It's a Happy Day », titre donc de son premier 45 tours. Parce que vous croyez vraiment que genre la meuf est arrivée en studio avec le savoir absolu ? Suite au concours de jeunes talents qu'elle gagne en 1977, Hélène tape dans l'œil de la productrice Rémi Anne David qui bosse donc pour le Hallmark Studio. Cette dernière lui propose d'enregistrer des titres avec un backing band, composé lui aussi de jeunes musiciens qui cherchent à percer. Elle enregistrera pléthore de titres, dans de très bonnes conditions, avec des gens très doués, dont le titre Baltimore en 1978, initialement écrit et composé pour un concours de chansons sur la ville de Baltimore. Elle perd malheureusement le concours, et toutes les démos enregistrées durant cette période brûlent dans un incendie quelques années plus tard. Ne subsiste de ces sessions que la démo d'un morceau au destin étrange finalement, puisqu'il sera réinterprété, enregistré et pressé en 1980 sur le dit 45 tours. Alors ok, c'est pas le morceau du siècle, c'est naïf et d'une profondeur à faire pâlir de jalousie un pédiluve de piscine municipale. Mais si je vous propose d'écouter cette démo plutôt que sa version single, dirons-nous, c'est pour deux raisons. La première, c'est que la qualité est incroyable pour une chute de studio et bien au-dessus à tout niveau que la version de 1980. La seconde est que cette démo et son histoire sont sorties dans le silence et l'indifférence la plus complète grâce à Rémi Anne David il y a 10 ans sur son propre compte SoundCloud. Alors on dit...
Oui, Stiti.
Non, merci Rémi Anne David.
To see I'm a Baltimorean. We like it here in Baltimore. There's so much love in Baltimore. We're working hand in hand to make this place a better land in Baltimore. Love is what you find. So stop and take the time to enjoy the brotherhood. This place a better land.
aujourd'hui.
Vous venez d'écouter l'épisode 1 de la saison 3 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, histoire de mettre
des paillettes dans ma vie.
Prenez soin de vous et à la prochaine.
I'm trying to make it in the music business, in the record industry. It's tough.